Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary. Bonjour à tous. À l'heure où la planète et plus de 4 milliards d'individus sont confinés, empêchés de sortir loin de chez eux, on a eu envie, à si loin si proche, de célébrer le voyage différemment, moins dans le mouvement et avec plus de détachement. Car dans cette expérience brutale du confinement que nous vivons tous, naissent aussi parfois de nouvelles habitudes et de nouveaux regards sur le monde qui nous entoure. À la fenêtre, on redécouvre le silence des villes, les sons d'une nature qui frappe à nos portes et nos oreilles. Plus attentifs et sédentaires, on réinvente notre rapport au temps et notre place dans l'environnement. Le voyage peut donc être aussi immobile, solitaire. De nombreux écrivains voyageurs qui, en d'autres circonstances, ont fait ce choix de se retirer du monde pour mieux l'observer, le raconter, le réinventer ou lui résister, nous l'ont prouvé. En retrait du monde, c'est donc le nom de cette série spéciale et littéraire en deux volets qu'on vous propose dès aujourd'hui. Cette semaine, épisode 1, récits de cabane et de refuge. Fermer les yeux, c'est voyager, disait le naturaliste américain Henry David Thoreau. On aurait envie d'ajouter à cela, tendre l'oreille, c'est voyager.
Un jour, je me rappelle qu'un cordonnier m'a demandé, mais expliquez-moi, monsieur, vous avez dit qu'on raconte de belles histoires si on marche beaucoup, si on voyage beaucoup, mais comment expliquez-vous que mon grand-père, qui n'a jamais voyagé, mais racontait des histoires assez belles que les vôtres. Et la réponse était dans les métiers de son grand-père, qui était aussi cordonnier. Alors je me suis dit, il connaît les souliers des gens. Et puis, où avait-il, je lui ai demandé, où avait-il sa boutique ? Sur la rue. Donc il lui suffisait de rester sur la rue, de voir les autres qui passent. Donc le problème, c'est la relativité du mouvement.
Quand il a décidé, il y a quelques années, de se retirer un temps sur un phare isolé en pleine Méditerranée, l'écrivain voyageur italien Paolo Rumiz avait emmené avec lui 10 kilos de livres. Finalement, perché sur sa tour de lumière, sur un petit caillou d'un kilomètre de long et 200 mètres de large, face à l'horizon, il n'en ouvrira aucun. Par contre, Paolo Rumiz va en écrire un, sur place. Le phare, voyage immobile, paru en France aux éditions Webeck et prix Nicolas Bouvier du Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo en 2015. À cette occasion, l'écrivain, né en 1947 à Trieste, jusque-là habitué à arpenter le monde à pied, à vélo, en bateau ou en topolino, était venu nous en parler.
Ce que j'ai vu très fort dans ce voyage immobile dans le phare, c'est la nécessité d'être un peu plus visionnaire. Regardez l'horizon, regardez loin. Et moi, j'avais une opportunité énorme parce que j'étais à une hauteur vraiment unique au milieu de la mer. C'est très difficile d'être au milieu de la mer à 120 mètres d'hauteur et pouvoir regarder tout autour, 360 degrés. J'étais toujours tellement en état d'alerte pour savoir les choses qui se passaient autour de moi, les changements du vent, le parfum de l'air. Le phare est un voyage immobile en apparence, mais l'île navigue, l'île voyage. Elle laisse un signe derrière soi. Ça dépend du vent. Si le vent est du nord-ouest, tu vois l'écume de l'île derrière, du côté opposé, donc au sud-est. Alors j'avais toujours l'impression de naviguer.
Et puis c'est ce que vous disiez, c'est que c'est la première fois aussi de votre vie que vous avez autant vécu au présent.
Oui.
Et que finalement, vous avez pris le temps d'observer, de regarder le moindre détail de tout cet horizon, petit et grand.
Mais oui, c'est le grand avantage d'être hors du réseau électronique, d'être hors du... avoir pas de contact téléphonique. Ces grands silences te amplifient.
Ça permet de parler longuement avec soi-même.
Oui, avec soi-même et avec l'univers qui est autour de toi. La plus belle découverte de ce voyage a été d'avoir retrouvé la peur de la nature. Cette peur, c'est un sentiment très important pour nous. Nous avons complètement perdu la peur de la nature. Nous avons perdu l'essence de la limite.
Parce qu'on pense la contrôler.
On pense la contrôler, on ne contrôle rien. Et cette pensée devient tellement évidente, tellement claire.
Quand vous avez la mer à l'extérieur qui gronde,
oui,
les tempêtes.
Oui, qui frappe à ta porte. Cette sensation de la limite, d'être petit face à la nature, ça n'est rien que la découverte de Dieu. Disons Dieu d'une façon laïque, c'est-à-dire la puissance de la nature. Et le phare amplifié, c'était un symbole formidable qui m'est placé au centre du monde, avec cette lumière qui tournait toute la nuit, sans cesse. Tourne, tourne. Retrouver un phare, la lumière d'un phare dans les néants de la nuit, le reconnaître et dire « Le voilà, c'est lui, je le cherche, je te cherchais, parce qu'on les tutoie. Je t'ai cherché, tu es là, tu m'as trouvé, je te trouve. »
La surprise.
La surprise, oui. Le premier phare que je rencontrais avec le GPS m'a vraiment déçu. Il n'y avait aucun mystère dans cette rencontre. Il faut vraiment avoir conscience qu'il s'agit d'une technologie très utile. Mais il faut aussi savoir que s'il faut retrouver le mystère, il faut de temps en temps éteindre tout ça, fermer la technologie, écouter son âme.
Je cherche l'âme dans une cabane et non le confort, a dit aussi Paolo Rumiz. Si selon lui, il faut savoir s'éloigner des technologies pour notamment retrouver la lueur et la surprise du phare, ces mêmes technologies, à commencer par Internet, offrent des fois de surprenantes fenêtres sur le monde. Parmi elles, les hikikomori, soit une version névrotique et contemporaine du repli social, celui d'une jeunesse, s'il serait un million, qui vit recluse et sans projet pendant des mois, voire des années, dans un Japon malade de sa réussite et sa verticalité, construite en zone sismique. C'est bien connu, de la géographie naissent des cultures, un rapport au monde, et dans l'archipel nippon, imprégné aussi de bouddhisme, on parle notamment de monde flottant. Bref, à ces hikikomori, on préfère une version bien plus ancienne de Retrait du Monde, celle d'un ermite japonais du XIIIe siècle.
Depuis que j'ai quitté le monde et que j'ai choisi la voie du renoncement, je me sens libre de toute haine comme de toute crainte. J'abandonne ma vie au destin. Je ne désire ni vivre longtemps, ni mourir vite. J'assimile ma vie à un nuage inconsistant. Je n'y accroche pas mon espoir et n'éprouve pas non plus de regrets. Pour moi, le plaisir suprême est celui que j'éprouve sur l'oreiller d'une sieste paisible. Et l'ambition de ma vie est de pouvoir, selon les saisons, contempler un beau paysage. Le monde entier n'est en somme que la conscience que nous en avons. Si le cœur n'est pas en paix, les trésors les plus rares ne signifient rien. Ni les palais, ni les riches demeures ne sont désirables. En ce moment, j'aime ma pauvre demeure, l'unique chambre de mon ermitage. Quand je dois me rendre à la capitale, j'éprouve l'humiliation de n'être qu'un moine mendiant, mais une fois rentré chez moi, je plains tous ceux qui sont esclaves des choses terrestres. Si quelqu'un doutait de ce que je dis ici, qu'il contemple l'allure des oiseaux et des poissons. Les poissons ne s'ennuient jamais d'être dans l'eau. Il faudrait être poisson pour comprendre ce sentiment. Les oiseaux ne demandent qu'à vivre dans les bois. Il n'y a que les oiseaux à comprendre cela. Il en est de même des joies de la solitude. On ne peut l'apprécier qu'en la vivant. De ma cabane de moine, Kamono Chome. édition Le Bruit du Temps.
Écrit en 1212, ce petit livre d'environ 80 pages est un des textes fondamentaux de la littérature classique japonaise. Son auteur, Kamono Chomei, est né en 1155 dans un contexte d'instabilité politique au Japon. À l'époque, les guerriers, les militaires, prenaient le pouvoir sur les sociétés aristocratiques de cour, jusque-là en place. Dans ce contexte, marqué donc par des décennies de luttes, de pouvoir et de chaos, mais aussi d'incendies, de famines, de typhons, de tremblements de terre, le poète musicien devenu moine bouddhiste fait alors le choix du repli. Sur une montagne, à Hino, au sud de Kyoto, il a alors 54 ans. Dans ses notes de Ma cabane de moine, traduites plus tard par un père jésuite, la sérénité l'emporte, même si le début de son essai est une litanie de catastrophes aux allures d'effondrement du monde. Ensuite, dans une langue pure et simple, Kamono Chomei fait l'éloge de cette vie contemplative, passée au fil de l'eau et des saisons, cette fameuse impermanence des choses qu'il aura touchée du doigt depuis son minuscule ermitage de 10 pieds, soit 3 mètres carrés seulement. Sous sa plume souffle une grande liberté de penser et d'être, mais aussi une sagesse pessimiste qui aujourd'hui, en ces temps troublés d'appréhension, d'attente, semble se distiller en chacun de nous. Se retirer du monde, c'est un choix qu'ont fait aussi les ermites lettrés de la Chine ancienne ou les maîtres de thé du Japon d'antan. L'ermite, c'est, il faut le dire, une figure, souvent pieuse, qui a traversé les siècles, de monastères bouddhistes nichés dans les replis de l'Hindou Kush au père du désert. Ces ermites, qui déjà au IVe siècle faisaient depuis les déserts d'Égypte le choix du silence et de la contemplation pour se plonger en Dieu. Grande voyageuse, exploratrice du XXe siècle, Alexandra Davinel était elle aussi une adepte du renoncement. De sa vie trépidante, émaillée de voyages qui vont la mener à travers l'Asie, on retient surtout le fait qu'elle a été la première femme occidentale à entrer en 1924 à Lhasa, cité interdite du Tibet. On oublie souvent qu'avant cela, à l'âge de 42 ans, cette orientaliste et bouddhiste convaincue était allée puiser ses forces et ses enseignements auprès du Lama Gomchen, qui l'a initié plusieurs années dans son ermitage du Sikkim à près de 4000 mètres d'altitude. Alexandra Davinel, archive de la radio suisse romande, 1957.
Les gens vraiment religieux, vous le pourriez dire religieux, ne séjournent pas dans les monastères. Ils s'en vont, ils en sortent, ils deviennent ermites. Alors les uns se mettent dans des maisons assez confortables, du reste, dans les solitudes, dans des endroits retirés où ils peuvent vivre avec eux-mêmes leurs domestiques, leurs chevaux, s'ils en ont, et alors se livrer à l'étude des livres philosophiques. Ou bien d'autres, alors, se retirent tout à fait loin sur des montagnes. Ils vivent là, généralement, dans des cavernes un peu aménagées, c'est-à-dire que devant l'entrée de la caverne, on bâtira un mur en pierre pour fermer du vent, et puis on y mettra peut-être une porte, et alors l'ermite s'installera là, et il vivra là pendant des années. Il y en a qui y vivent toute leur vie, en se livrant à la méditation.
Est-ce dans le sens d'une renonciation que Bouddha aurait prescrite?
Non, point du tout, ça n'a rien à faire, le Bouddha a dit. Il est bon de se retirer pour méditer, mais il n'a pas ordonné cela. Le Bouddha n'a jamais rien ordonné dans ce sens. Les gens qui se retirent là s'y retirent par goût, par le désir de s'abstraire des choses, de l'agitation du monde, si vous voulez, et même de celle du monastère. Et c'est une vie fort agréable. Moi, j'ai vécu en ermite. J'ai vécu pendant près de 3 ans sur une montagne, 3900 mètres d'altitude. J'avais là ma petite caverne, moi aussi, qui était arrangée aussi, avec des pierres qui enfermaient l'entrée pour le masquer du vent. Et j'y vivais très agréablement. On me fournissait de vivre 2 fois par an, parce qu'on n'atteignait pas cette caverne en hiver. Le versant sur lequel elle était située était ensoleillé, alors la neige fondait assez rapidement, mais au bas dans les vallées, il y en avait des mètres d'épaisseur et personne ne pouvait passer, suivant la durée de l'hiver, pendant 4 mois, pendant 5 mois.
Avez-vous la possibilité au moins de vous réchauffer, de faire du feu?
Du feu, oui, j'en faisais. Je n'aurais pas dû en faire, car les ermites n'en font pas. Il y avait dans mon voisinage, à environ 2 kilomètres de distance de là, sur la montagne, un ermite que j'allais voir de temps en temps, car il m'enseignait certaines choses que je désirais apprendre. Lui vivait presque nu. Et même quelquefois, il était tout nu. Au milieu de la neige, il ne faisait jamais de feu. Mais moi, bien plus faible, j'en faisais. Il y avait là une provision de bois qu'on m'avait donnée. Et enfin, j'allumais un petit feu de temps en temps pour me réchauffer.
Mais pendant les 3 ans que vous avez vécu là-bas, réellement, vous n'avez eu personne? Vous n'avez pas eu de contact avec des étrangers?
C'est-à-dire, des étrangers, non. Mais des Tibétains, oui, on était certainement. Quelquefois, il y avait des gens qui passaient dans les environs. Et je les voyais, mais je ne leur parlais pas. Et ils ne me voyaient pas. Moi, je les voyais de mon air d'aigle là-haut, dessus-là, je les voyais passer dans la vallée. Seulement, j'avais près de moi, d'abord mon fils, à partager cette chose-là, mais il ne vivait pas avec moi. Il vivait à peut-être 300 mètres entre nos deux cabanes, et il vivait aussi dans une cabane comme ça. Bon, il était à ma portée, et il venait m'apporter quelquefois quelque chose, une soupe ou des choses comme ça. Mais il ne me voyait pas non plus, parce qu'il déposait ces choses dans une partie de ma caverne qui était fermée. Moi, je me tenais de l'autre côté, c'est ainsi que cela se fait. Mais alors, en été, naturellement, je le voyais davantage. Mais en hiver, nous étions tout à fait isolés comme ça. Et en hiver, alors on ne voyait personne du tout.
Si loin, si proche. Écoutez, vous voyagez.
Entre les branches des arbres, dans les sous-bois, passe un je ne sais quoi d'espace et de lumière qu'on ne verrait peut-être pas si certains peintres ne l'avaient mis en évidence. Il y a dans l'ordinaire quelque chose qui transcende l'ordinaire. La formule est de l'ancien maître de haïku, Basho. Notre travers est de toujours situer cet au-delà du monde dans un ailleurs, là où il est dans une présence invisible. Le savoir-faire des grands compositeurs de haïku est de le mettre en évidence juste là où il est. Le paysan d'autrefois avait le temps de goûter au silence quand il retournait sa charrue au bout du sillon, s'épongeait le front, buvait un verre de vin rouge coupé d'eau. Le bûcheron, le charbonnier, pauvre tâcheron d'une vie dure, aux clairières des forêts, vivait en solitude et silence. Toute chose que le contemporain tient pour nulle. La seule pensée de manquer de réseau le fait frémir. Les ermites étaient là pour ça. Ce pays de monts et de vallées profondes était leur désert. Pour l'hiver prochain, pensez à demander au voisin s'il me vendrait quelques stères de ces bûches qu'on voit chez lui bien pilées sur l'autre rive du ruisseau. Sans doute irai-je dans les bois, une tronçonneuse en main, faire un peu de nettoyage parmi les arbres couchés, déjà dénudés de leur écorce, colonisés par les capricornes et autres xylophages. Mais loin de moi l'idée de cette autarcie, ici énergétique, qu'on trouve dans les Robinsonades, que sont finalement les expériences de Thoreau et de Thomas Raincrow, son disciple. Dans le désir d'autosuffisance, n'y a-t-il pas le rêve d'une régression cachée, nécessaire à l'expérience initiatique ? La cabane dans les bois, de quelque façon, est semblable à l'île de Robinson Crusoe. C'est un monde à part, où l'on régénère sa vie. L'entreprise, secrète jusqu'à soi-même, y est celle d'un recommencement dans on ne sait quel naufrage dont celui du navire n'est que la métaphore. Chaque vie a ses tempêtes, ses écueils, qui poussent certains vers un rivage perdu. Le naufragé, couché dans le ressac d'une plage aux cocotiers, à moitié noyé, épuisé, suffoquant, vit en littérature une nouvelle naissance. C'est ensuite qu'à partir de débris, il reconstruit son existence, un monde complet finalement, sauf qu'il y manque l'essentiel, l'humanité, qui suppose le nombre 2. C'est là que vendredi arrive. En tout enfant, il y a un Huckleberry Finn. Construire une cabane est un jeu fondateur, ou un radeau pour descendre le Mississippi en une longue fugue au fil des méandres. Ceux qui n'en ont pas iront hanter les sous-sols des immeubles, à leurs risques et périls. L'initiation, toujours. L'ermite en son désert poursuit quelque chose de semblable. L'exemple semble indiquer, à rebours, que l'enfant en sa cabane est peut-être à la recherche d'une dimension métaphysique. Il y a un frisson dans la solitude qui ne trompe pas. L'expérience des cabanes grandit l'âme.
Dans la pénombre des bois immobiles, Antoine Marcel est un adepte des cabanes et autres refuges. Né en 1949, l'écrivain français, spécialiste de la philosophie zen, a dans sa jeunesse beaucoup voyagé, pour finalement réaliser que le plus grand des voyages est intérieur, loin du bruit du monde. Ma vie dans les monts raconte son installation dans une région de montagne, adossée au sud du Massif central, ses réflexions sur l'uniformisation des habitats ou des jardins, mais aussi les multiples inspirations de l'auteur. De Kamono Chomei, l'ermite japonais, en passant par les grands écrivains de nature américains. Antoine Marcel est aussi l'auteur de Traité de la cabane solitaire, un pèlerinage revendiqué vers toutes les cabanes de la Terre, des montagnes d'Asie à celles en rondins de bois, des bûcherons d'Amérique. Ce livre, Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur français, va justement l'emmener quand en 2010, il part se retirer 6 mois en Sibérie. Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson, livre audio, Gallimard.
Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Je me suis installé pendant 6 mois dans une cabane sibérienne sur les rives du lac Baïkal, à la pointe du cap des Cèdres du Nord. Un village à 120 kilomètres, pas de voisins, pas de route d'accès, parfois une visite. L'hiver, des températures de moins 30 degrés, l'été, des ours sur les berges, bref, le paradis. J'y ai emporté des livres, des cigares et de la vodka. Le reste, l'espace, le silence et la solitude étaient déjà là. Dans ce désert, je me suis inventé une vie sobre et belle. J'ai vécu une existence resserrée autour de gestes simples. J'ai regardé les jours passer, face au lac et à la forêt. J'ai coupé du bois, pêché mon dîner, beaucoup lu, marché dans les montagnes et bu de la vodka à la fenêtre. La cabane était un poste d'observation idéal pour capter les tressaillements de la nature. J'ai connu l'hiver et le printemps, le bonheur, le désespoir et finalement la paix. Au fond de la taïga, je me suis métamorphosé. L'immobilité m'a apporté ce que le voyage ne me procurait plus. Le génie du lieu m'a aidé à apprivoiser le temps. Mon ermitage est devenu le laboratoire de ces transformations. Tous les jours, j'ai consigné mes pensées dans un cahier. Ce journal d'ermitage, vous allez en entendre la lecture. Matériel nécessaire à 6 mois de vie dans les bois. Hache et merlin. Bâche. Sac de jute. Pique et épuisette à glace. Patin à glace. Raquette à neige. Kayak et pagaie. Canne à pêche, fil, plomb, mouches et cuillères. Batterie de cuisine. Théière. Chignole à glace. Corde. Poignard et couteau suisse. Pierre à aiguiser. Lampe à huile. Kérosène. Bougies, GPS, boussole, carte. Panneaux solaires, câbles et batteries rechargeables. Sac à dos de montagne, sac marin, tapis de feutre, sac de couchage. 10 boîtes de paracétamol pour lutter contre les effets de la vodka. Scie, marteau, clou, vis, lime. Drapeau français pour le 14 juillet. Fusée anti-ours type feu à main. Bibliothèque personnelle. Mâle en bois, jumelles, appareil électronique. Cahier et stylo. Vivres, pâtes, riz, tabasco, pain de guerre, boîte de fruits, piment, poivre, sel, café, miel et thé pour 6 mois. C'est drôle. On se décide à vivre en cabane, on s'imagine fumant le cigare devant le ciel, perdu dans ses méditations, et l'on se retrouve à cocher des listes de vivres, dans un cahier d'intendance. La vie, cette affaire d'épicerie.
Vous écoutez Si loin, si proche.
Are you pale with lilacs and wild columbine? All of it was mine. An old recycling bins are your watermelon vine. All of it was mine. And everything I saw seemed to get so small, like from a speeding car. Old familiar parts. I made hard meat bread, rhubarb berry fool, and I gave it all to you. I crumbled all my clothes to the floor, I threw them and turned right back to you. My rotten suffered fence, my sagging heart roll on. All of it is mine, all of it is mine. My screaming at night in the muddy streetlight shine. See the hulking round skyline, and all of it is mine. I dug up all my carrots in their wild orange hue, and I gave them all to you. And all the words with which I didn't know what to do, oh, I said them all to you.
Récit de la cabane abandonnée. Grey Hall, édition Souffle. La cabane abandonnée, déserte maintenant pour toujours, se trouve très loin d'Aïdjawan, où j'habite avec mes castors. Vers le nord, dans une vallée profonde, elle se cache au bord d'un petit lac sans nom. Le lac est étroit, ses eaux diminuent. Des rochers, submergés jadis, s'y allongent partout, blanchâtres et dénudés, pareils aux pierres tombales de quelques cimetières oubliés. Au déversoir se dresse une vieille digue de castors. Aucun vaillant petit bâtisseur ne la répare plus depuis longtemps. Son sommet s'élève de 4 bons pieds au-dessus du niveau actuel de la nappe d'eau. Un étroit ruisseau s'est frayé passage à son centre et murmure en s'éloignant comme une voix qui parle indistinctement dans un rêve. En remontant la rive, on aperçoit la loge où vivaient les castors sauvages avant d'être détruits par l'homme. C'est en face de cette hutte, sur l'autre bord du lac, qu'achève lentement de s'effondrer la cabane abandonnée à laquelle je pense ce soir. Cette cabane a été un asile de bonheur. Car à l'intérieur, dans un coin, se dessèche un petit sapin de Noël. À ses branches pendent encore les ficelles qui ont attaché des cadeaux et des friandises. Des êtres vivants s'étaient créés là un foyer paisible, un abri. J'ai dit, au cours d'un précédent livre, comment nous avons passé l'hiver, Anna Areo et moi, dans cette maison. Captifs du froid et de la neige, pour occuper nos longues heures inactives, nous nous asseyions devant le poêle ouvert qui projetait sur le sol un cercle de clarté rougeoyante. Les courtes flammes bleuâtres et les étincelles ébauchaient au milieu des braises d'étranges décors lumineux, sans cesse croulants et renouvelés. Je croyais y voir revivre certaines scènes de ma jeunesse, demi-oubliées depuis longtemps. Je retrouvais le craquettement et la lueur des feux en plein air, tandis que j'évoquais ces souvenirs pour Anna Areo et que mes récits se succédaient, chaque aventure en appelant une autre. Je parlais aussi parfois d'autres cabanes, logis d'hiver semées par moi au hasard sur des milliers de milles de pays sauvages. Certaines, parmi ces simples constructions en troncs de sapin, ont été submergées et détruites par les progrès de la colonisation. Sur l'emplacement de l'une d'elles, une villa poussée tentait rapide la marche conquérante du progrès. À chacune d'elles se rattache une histoire, parfois plusieurs histoires, celle des rares visiteurs qui s'y sont arrêtés une ou deux fois, puis sont partis pour ne jamais revenir, celle des créatures qui vivaient dans les environs, au sein de la forêt ou du lac voisin. Des pas furtifs glissent dans l'ombre, d'invisibles présences se font toutes proches. De petites voix parlent bas, venues du passé lointain. Certains de ces contes, les plus chers, ne seront jamais répétés à personne. Mais il s'en trouve, au contraire, que je suis heureux de dire ici. Ainsi, lecteur inconnu, mon ami, venez vous asseoir avec moi parmi les esprits d'autrefois. J'essaierai de vous faire connaître un peu l'âme du Grand Nord indomptable, les souffrances, les luttes et les joies d'hommes et de bêtes qui ne sont plus.
Quand il entame, en 1935, l'écriture de ses récits de la cabane abandonnée, Gray Hall est devenu un garde forestier canadien respecté et un défenseur de la cause animale et autochtone acclamé à travers le monde. Né Archibald Bellany en 1888 en Angleterre, il s'est passionné dès l'enfance pour les autochtones d'Amérique du Nord, au point de partir, dès 17 ans, pour le Canada et de revendiquer des origines autochtones. Ce que tout le monde va croire, les autochtones l'ayant littéralement adopté sous le nom de Chouette Cendrée, Gray Hall. Finalement, la mystification sera découverte, après sa mort, ce qui va certainement contribuer à le faire oublier de la carte des naturalistes pionniers. Il n'empêche, cet ancien trappeur, converti à la préservation de la nature, reste un personnage fascinant et visionnaire pour son époque. Dans son récit, aux allures de chronique des temps révolus, la cabane sert d'écrin à souvenir, celui d'un monde sauvage qui n'est plus. Le sauvage, ou wilderness, et la cabane, bien sûr, ce sont de solides mythes américains qui, encore aujourd'hui, inspirent les plus beaux récits à ciel ouvert, un genre littéraire, le nature writing, mais aussi les voyageurs du monde entier.
La route sort des montagnes rocheuses et part en direction de l'ouest, l'Alaska. Une forêt dense, presque étouffée, s'étire à perte de vue. Pas d'habitation. Un copain québécois m'avait prévenu, si tu veux aller te perdre, le Yukon est un coin où même les animaux se perdent. J'arrête la voiture sur une piste forestière. Ces repérages ont pour but de visiter les lacs que j'ai localisés sur les cartes. En fait, je cherche le meilleur emplacement pour construire une cabane. Les critères sont l'isolement, à 3-4 heures de marche de la route, un beau cadre proche des montagnes, de quoi bâtir sur place, à savoir des résineux bien droits, et un lac à proximité. Après étude des cartes, je pars repérer le terrain. Sur cette portion de route de 150 km, la seule habitation remarquée est une vieille cabane de trappeur située au bord d'une rivière dont le nom est facile à retenir, French River. Le cours d'eau limpide descend directement d'une chaîne de montagnes, les montagnes Cassiar, des sommets aussi blancs qu'une carte vierge. Par un soir pluvieux, la voiture s'arrête devant la pompe à essence du minuscule village au joli nom de Tatuga, au sud des montagnes Cassiar. Une pluie généreuse se déverse dans la nuit déjà profonde. Et voilà que, pétrifié au fond du siège, le blues me gagne. Le grand blues. Extrait de journal. Mes repérages sont un échec. Voilà 10 jours que je ne réalise que de simples repérages le long de la route. Non, ce ne sont pas les aires de pique-nique que je vise. Je m'imaginais parcourir à la boussole des immensités sauvages afin de trouver un endroit idyllique au bord d'un lac. Au lieu de ça, j'ose tout juste rentrer dans les hautes herbes des bas-côtés. Oui, c'est parce que j'ai peur. Peur de la forêt, de me perdre. Peur des ours, peur des rivières et des marécages. J'arrive au Canada... et j'ai peur.
Mais qu'allait donc chercher le français Olaf Kondo au Yukon, un immense territoire aussi grand que la France, mais peuplé de seulement 38 000 habitants. Lui-même ne l'énonce jamais vraiment dans son récit « Un an de cabane » paru chez Paulsen en 2005. Une chose est sûre, la peur une fois dépassée et la cabane construite au bord du lac, le mythe du Grand Nord canadien tiendra toutes ses promesses.
Voilà des mois que j'écoute le silence et je suis toujours surpris de sa pureté. Il se passe des jours sans que la nature n'émette le moindre bruit. Dans ce blanc, seul le ruban flou de la forêt qui m'encercle est plus sombre. Les immensités n'en sont plus. Le monde s'est rétréci. Voici les fastes de l'hiver. Le Canada est un pays froid. C'est dans ces conditions que l'ambiance est la plus remarquable. À ce moment-là, planté au milieu du lac, je prends suffisamment de recul pour avoir soudain conscience de ma réelle situation. Eh bien, ça y est, j'y suis. Le sentiment d'aboutissement éclate. La cabane, l'hiver, le froid sec, la neige, la solitude. Eh bien voilà, j'y suis. Écoutez le silence, rêvassez, observez. Marchez, coupez du bois, et à la lumière de la bougie, les joues rouges, manger des crêpes. Lire. Mon objectif est atteint. 8 mois de présence ici. Je me sens adapté au milieu. Serein. Et la solitude n'est pas pesante, toujours pas du moins. En tout cas, je ne parle pas seul, pas encore. Je savais qu'en venant ici, certaines choses seraient dures. Or, à ma surprise, rien ne me manque, à part peut-être la musique. Je pense m'être inconsciemment préparé à cette vie. Mes désirs se sont soumis à mes besoins d'adaptation.
Cabane et retraite littéraire, la plus fameuse d'entre elles est celle qu'a faite en 1845 le naturaliste et philosophe américain Henry David Thoreau à Concord, au bord d'un étang devenu mythique, Walden. Son récit Walden ou La vie dans les bois est un livre fondateur du nature writing, un pamphlet critique, un bras moralisateur de la modernité et un hymne puissant à la liberté et la vie simple dans un monde de profit. Esprit éclairé comme pouvaient l'être ceux de la côte est américaine, l'abolitionniste Henry David Thoreau est également l'auteur de La désobéissance civile. Et sa figure va inspirer les libres penseurs en Amérique, comme la Beat Generation par exemple des années 50. Burroughs et Kerouac auront d'ailleurs eux-mêmes leur cabane. Dans les années 70, à San Francisco, Thomas Rincrow côtoie cette bande hétéroclite, libertaire et sous psychotrope qu'était la Beat Generation. À moins de 30 ans, le jeune poète décide pourtant de rentrer dans ses contrées natales, en Caroline du Nord, pour vivre 4 ans dans une cabane perdue, loin de tout. Son livre, « Ma vie dans les Appalaches », paru sur le tard en France, en 2013 chez Phébus, est une ode vibrante à la nature et la solitude.
Malgré la solitude inhérente à une vie vécue dans l'isolement, nous ne sommes pas littéralement seuls. J'ai en effet beaucoup de compagnie, dans la maison comme dans le champ. En hiver, je suis témoin de la lutte mythique et générationnelle entre le vieux serpent noir et le jeune écureuil dans le plafond au-dessus de mon lit. Le matin, je suis réveillé par la lumière du soleil, mais aussi par le chant des oiseaux et des corbeaux perchés sur des branches pendant au-dessus de mon toit et qui se moquent de mon air endormi et de ma lenteur à sortir du sommeil. Encore un exemple qui montre bien que, dans mon isolement, je ne suis jamais seul, même si je vis dans la solitude. Quand le renard glapit et que la mouffette couine, je vis dans la solitude. Quand le raton laveur dort et que l'opossum monte à l'arbre, je vis dans la solitude. Quand la pluie claque sur le toit de tôle comme un million de petits roulements de tambour et que le vent du nord souffle dans la gouttière comme dans une flûte, je vis dans la solitude. Seul et néanmoins, comme taureau, pas plus solitaire qu'un pissenlit dans le pré ou qu'une feuille de haricot dans le sillon du potager, qu'un flocon de neige dans une congère ou que l'abeille dans la ruche. En 3 ans de vie dans cette petite maison, je ne me suis jamais apitoyé sur moi-même, pas plus que je n'ai eu envie de partir d'ici et de retourner dans le monde des machines et des hommes. Ici, je connais des satisfactions qu'on a rarement, pour ne pas dire jamais, dans le monde extérieur. S'allonger dans l'herbe du jardin, côté sud, comme un vieux chien endormi. Se gorger du soleil de l'après-midi et rêvasser. Se ruer nu dans les bois en direction des cabinets, le matin, en bondissant au-dessus du givre pour que les pieds ne gèlent pas. Rester assis un long moment, des heures entières parfois, au milieu d'une journée de travail pour regarder une fourmilière ou un essaim d'abeilles sauvages. Et bien sûr, parler tout seul. Loin des restrictions sociales et coupé du temps, on se sent vraiment libre et comme expérimentant une sorte de pure anarchie. Un retour en enfance, mais se fondant peu à peu et consciemment avec la nature.
Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. Hope you're not lonely without me.
La vie en cabane. Petit discours sur la frugalité et le retour à l'essentiel. David Lefebvre, édition Transboréale. Assurément, le besoin de cabane vibre en nous depuis toujours. Il relève d'une sorte de vertige puisé dans les songes de l'âge innocent. Aussi loin que la mémoire porte, notre attachement indéfectible aux recoins dérobés et autres refuges précaires remonte pour bon nombre d'entre nous à la découverte d'une passion pour la lecture. Il éveille des visions floues, mais indélébiles. Pour ma part, je crois pouvoir affirmer, avec le plus grand sérieux, que ma première cabane fut donc une cabane de drap. De là naquit l'envie de me frotter à la nature et d'y édifier. Les cabanes ne tardèrent pas à se poster sur ma route, comme des balises. En terre de feu, j'ai croisé plus de cabanons et d'abris de fortune que ne pouvait en concevoir mon imagination. Masure des trappeurs chassant le castor, puestos des gauchos, baraques immobiles des ouvriers ouvrant des pistes dans les régions reculées, campements d'été des chercheurs d'or, des bûcherons, des chasseurs de guanaco. Leurs occupants m'ont appris bien des choses sur les particularités de leur résidence. La cabane est un ermitage sans contrat ni engagement sur un improbable futur. L'asile de celui qui refuse de s'établir à demeure mais se sent partout chez lui. Elle est à l'homme de pleine terre ce que le mouillage est au marin vagabond. La cabine du marin n'est-elle pas en relation étroite avec la cabane ? Aujourd'hui, l'appel du rustique a le vent en poupe. Le séjour dans une cabane a trouvé son public. Partout en France, bases de loisirs, centres de vacances et gîtes ruraux se sont engouffrés dans la brèche. Une humanité dénaturée sort du monde pour une courte parenthèse. Elle s'offre un soupçon de pureté dans un environnement dévoré par des constructions affreuses. Pour les jeunes époux en lune de miel, la nuit en cabane scelle l'instant sacré. L'amusement tient presque de l'outil de folklore. Aparté exotique, la cabane est façonnée pour émerveiller. L'enchantement de la cabane arboricole ne doit pas faire oublier une autre réalité. Un belvédère d'altitude n'est pas toujours le support d'un rêve, mais parfois celui d'une lutte. Les partisans de l'habitat léger sont assimilés à de mauvais citoyens, le contraire d'être socialement intégrés. Aucune facture ne peut leur être réclamée, aucun créancier ne les poursuivra, aucun huissier ne menacera de les expulser. Posséder une cabane, c'est encore ne rien posséder qui soit monnayable pour l'ordre économique, rien qui soit de valeur aux yeux d'instances judiciaires et dont elles se saisiraient pour réparer un écart contrevenant à leur loi. La cabane est à l'avant-garde. En tant qu'idée, elle s'élève contre l'uniformisation et l'appauvrissement graduel de notre libre arbitre. Où qu'elle nous attende, elle incarne une sorte de mythe nécessaire dont notre espoir a besoin pour repousser la fatalité et réenchanter le monde. En suggérant une autre forme d'adaptation à l'environnement, elle questionne notre avenir. Là où elle s'apparente à un mode de vie, voire à un art de vivre, elle inaugure une approche révolutionnaire de l'habitat et des échanges humains. Expression d'un bonheur nouveau, tête de pont d'une aventure écologique, elle est un outil de résistance et de création dans un univers de dévastation volontaire.
En cabane et vous, c'est en somme le conseil que nous fait David Lefebvre, écrivain français, auteur également de Solitudes australes, récit de sa vie en cabane au Chili. Cabaner même, nous dit-il. Nous apprenons au passage que ce verbe cabaner signifie mettre sans dessus-dessous, en désordre. Car comme le dit si bien Sylvain Tesson, tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu. Céline Develle-Mazurel, Laura Larry, on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de cette série. Un immense merci à notre acolyte Vladimir Cagnolari pour toutes ses lectures. Merci aux éditeurs et aux bibliothèques en ligne de m'avoir permis d'accéder à tous ces ouvrages. Et merci à vous, chers auditeurs, de votre écoute fidèle. À la semaine prochaine, on va quitter la cabane, se déconfiner un peu et partir dans les immensités.
Retrouvez Si loin, si proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur rfi.fr.
Tout à l'heure sur RFI.